Avez-vous tous lu Lévitique? C'est le moment culpabilisation, vous avez vu? Je sais que vous mentez, hein, ceux qui disent oui. C'est pas la peine hein, de mentir. Non, en fait, je sais en gros que la plupart d'entre vous n'ont peut-être pas eu le temps de tout lire, mais ne vous inquiétez pas, normalement on devrait faire le tour du livre. Et surtout, je pense que un des résultats normalement de cette semaine d'exposé, ça va être de vous donner envie de le lire après. Donc d'avoir les clés pour mieux le comprendre ou pour le comprendre tout court, voilà. Pour même prendre du plaisir à le lire. Donc vous inquiétez pas si par exemple vous êtes forcé à tout lire et que vous n'avez strictement rien compris, que en fait vous auriez mieux fait lire le bottin ou le dictionnaire, encore que le dictionnaire c'est plus intéressant. Mais donc vous inquiétez pas, on va essayer de faire un tour d'horizon pendant toute la semaine de ce livre qui est très précieux. En le préparant, j'ai été un tout petit peu surpris, mais pas si surpris que ça, c'est qu'il y a beaucoup de concepts qui me sont explosés à la figure. Et c'est extrêmement riche, il y a beaucoup de choses à voir, à comprendre. Et pour commencer, pour faire un peu une introduction à ce livre, je me suis dit, alors qu'est-ce qu'ils connaissent déjà du culte des Hébreux? Parce qu'en gros, vous savez, le Lévitique ne vient pas comme ça en premier dans la Bible. Normalement, ça, tout le monde le sait. Il y a la Genèse, il y a l'Exode. Et en gros, voilà, avant, il y a un livre qui s'appelle l'Exode qui raconte pas mal de choses. Si vous n'avez pas lu l'Exode, alors bon, si vous n'avez peut-être pas lu tout le Lévitique, alors en plus, vous n'avez peut-être pas lu l'Exode avant, hein, vous n'êtes pas dit, allez, tiens, je vais me faire toute la Bible d'un seul coup, et là, vous arrivez, vous avez lu toute la Bible. Normalement, si vous n'avez pas lu l'Exode avant, vous avez encore aussi un rattrapage à effectuer. Et donc, je me suis dit, avant de lire un premier chapitre du livre de Lévitique, on va faire une sorte de remise à niveau. Genre, qu'est-ce qui s'est passé avant le livre de Lévitique? Et maintenant, je vais essayer la télécommande. Elle ne fonctionne pas. Ouais, donc, tu peux appuyer sur, le pad. Voilà, ce qui s'est passé avant. Merci. Donc, tu seras ma télécommande. Attends, je télécommande Marion. Elle fonctionne très bien. Ce qui s'est passé avant, donc dans le livre de l'Exode, et là tu peux encore cliquer. Voilà. La délivrance. Là je mets verset 13 parce qu'on va lire le Lévitique 26. Hein. Vous pouvez mettre Lévitique 26, on ne va pas le lire tout de suite. Vous remarquerez qu'on va commencer par un chapitre à la fin du livre. Parce que j'aime beaucoup Quentin Tarantino. Et Quentin Tarantino a tendance en fait à commencer par la fin et après aller vers le début, après revenir à la fin pour montrer qu'en fait il y a une cohérence entre tout. Et en hommage à lui, j'ai voulu faire ça. Non, c'est pas vrai du tout. Hein. C'est juste que le chapitre 26 va nous aider, je pense, à bien introduire ce livre. En tout cas, avant le Lévitique, il y a l'Exode et vous n'êtes pas sans savoir si vous avez au moins regardé Le Prince d'Égypte ou si vous avez lu l'Exode que l'Éternel a délivré le peuple hébreu qui était esclave en Égypte. Donc les descendants d'Abraham, les descendants de Jacob, ils étaient pendant plus de 400 ans, ils ont été esclaves en Égypte et Dieu les a délivrés par sa main puissante. Il a accompli toute une série de miracles, toute une série de plaies pour forcer le pharaon, l'homme d'État le plus puissant du moment, pour le forcer à délivrer les Hébreux de son pays. Il a utilisé 10 plaies. Après, il a utilisé la séparation des eaux dans la mer des Joncs, et ce qui a recouvert complètement l'armée, une partie de l'armée en tout cas du pharaon qui poursuivait les Hébreux. Donc en gros, petit peuple hébreu, anciens esclaves, ils ont gagné contre une des armées les plus puissantes de la planète grâce à l'Éternel. Voilà ce qui s'est passé avant. Et Dieu a donné à Moïse sa loi. Il a dit à Moïse de dire aux Israélites qu'il allait dire deux, trois trucs sur leur vie. Hein, et que, par exemple, pour l'approcher, pour lui rendre un culte, il fallait faire certaines choses. Il allait avoir besoin de certains ustensiles. Il y a certaines personnes qui vont pouvoir approcher Dieu et d'autres non. C'est ce qu'on va voir pendant cette semaine. Mais en tout cas, le minimum à savoir, et c'est là où j'ai besoin de Marion, c'est comment se déroule le culte. Alors ça, c'est le culte. Et après, donc la première diapo, je ne sais pas qu'est-ce que ça va être. Voilà, voici le tabernacle. Ah, c'est beau, non? Une sorte d'enceinte sacrée. Là, vous avez, au fond, il y a la découpe hein, avec le lieu saint, le lieu très saint. Hein. Je sais pas si, est-ce que tout le monde est familier avec ça ou est-ce que je donne des nouveautés? On ne sait jamais. Donc, de toute façon, je vous explique. Le petit truc blanc à droite, ça s'appelle l'autel des sacrifices. Donc, c'est là que se font les sacrifices et les holocaustes. Donc, il y a un feu qui brûle en permanence sur cet autel-là. C'est là que les sacrificateurs vont joyeusement s'occuper de la viande qui va être sacrifiée à l'Éternel, ce qu'on expliquera demain. La cuve des reins, la cuve de bronze entre l'autel et le tabernacle et le lieu saint, le lieu très saint. La cuve permet de faire les ablutions pour les prêtres, pour ceux qui s'occupent du culte de l'Éternel, qui s'occupent de la viande, en gros, qui s'occupent des sacrifices, du sang des sacrifices. Eux, ils peuvent se purifier en se baignant dans cette eau qu'il y a dans la cuve. Et ensuite, après, on a le tabernacle en lui-même, donc le lieu saint, oh merci Marion, le lieu saint, avec à l'intérieur le chandelier à sept branches, la table des pains de proposition. Et avec 12 pains de proposition, un pain pour chaque tribu. L'autel des parfums, où en permanence il y a des parfums qui brûlent en bonne odeur, pour une bonne odeur agréable pour l'Éternel, parce qu'il aime ça. Et donc entre le lieu saint et le lieu très saint, entre le rouge et le jaune, il y a un grand rideau, un voile, et avec des anges qui sont dessinés dessus. Et derrière le voile, il y a ce qu'on appelle le lieu très saint, ou le saint des saints, où là, il y a l'arche de l'Alliance, avec les deux tablettes qui ont été données à Moïse. Et donc voilà, sur cette arche-là, c'est le, on va dire, le point de rencontre entre le ciel et la terre. C'est là où la présence de Dieu se manifeste, c'est là où la nuée descend, où la présence de Dieu est manifeste. Donc dans cette arche est l'élément le plus sacré. Le plus saint d'Israël, pour Israël. Donc voilà un peu comment se passe le culte. Tu peux passer à la diapo d'après, je pense. Voilà, là voilà une vue un peu plus rapprochée. Merci Bible Online, hein, en l'occurrence. Donc vous voyez, vous avez toujours l'autel, où il y a un feu qui est consumé, où là on effectue les sacrifices. Vous avez donc un sacrificateur qui, des prêtres en fait, qui effectuent des sacrifices pour l'Éternel. Voilà. Et donc c'était juste pour faire un zoom pour vous montrer un peu mieux. Ensuite, la diapo d'après, voilà, ça se voit assez mal. Bon, en fait, c'est le lieu saint avec un sacrificateur qui fait brûler des parfums. Vous voyez, vous arrivez à voir où il y a trop de lumière. Bon, voilà, c'est pas très grave de toute façon. Hein. Mais là, vous voyez bien les chérubins, le voile qui sépare le lieu saint et le lieu très saint. Diapo d'après. Voilà, et là il n'y a plus le voile, et là au fond, donc vous avez la nuée avec l'arche de l'Alliance, mais là vous la voyez très 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 mal. Voilà, où il y a des chérubins, il y a les ailes des chérubins qui couvrent le couvercle de l'arche qu'on appelle le propitiatoire. Ensuite, hop là, voici le souverain sacrificateur, le big boss de la religion juive. Vous le voyez, il est beau. J'en ai encore mis après. Voilà, lui. Il est très beau, hein, je veux dire. Ouais. Il fait un peu comique, mais bon, voilà. On dirait Gad Elmaleh quand il sera vieux. Et en gros, vous voyez, bon, le souverain sacrificateur qui est vraiment la personne qui peut s'approcher de Dieu une fois par an pour justement asperger de sang le propitiatoire, le coffre de l'Alliance. Sur son chapeau, c'est marqué « Consacré à l'Éternel ». Voilà, parce que je ne sais pas si vous lisez l'hébreu, mais en fait, c'est assez rare. Et il a donc 12 pierres sur son poitrail qui symbolisent les 12 tribus d'Israël. Voilà, ce qu'il porte, c'est ce qu'on appelle l'éphod. L'éphod, c'est la tunique qu'il porte. Voilà. Donc en gros, là, c'est quelque chose de très accéléré pour vous donner une petite idée de comment se fait le culte en Israël. Comme ça, les prochains jours, quand je dirai tous ces mots-là, vous arriverez à peu près à visualiser ce que je veux dire. Mais je pourrais même leur expliquer même le moment venu, donc vous inquiétez pas, et vous pouvez même me poser des questions quand vous voulez, peut-être pas pendant les 45 minutes de maintenant, mais après, si vous avez encore des questions. Puisqu'on est avec le grand prêtre, en plus d'avoir justement ces différents lieux au niveau du tabernacle, au niveau d'Israël, est composé de tribus, et dans ces 12 tribus, il y a une tribu qui est particulière, qui est la tribu de Lévi, qui est une tribu qui est mise à part pour Dieu, hein, qui ne possède aucune terre, Et donc, bah, ce n'est pas son boulot, parce que son boulot, c'est d'assurer le culte à Dieu. Et à l'intérieur de la tribu de Lévi, il y a la famille d'Aaron. C'est donc la famille des prêtres. Et à l'intérieur de la famille d'Aaron, il y a Aaron et après ses fils, les grands prêtres. Donc, les big boss de la religion juive, pour schématiser. Donc voilà, ceci étant dit, je vous propose de commencer donc la lecture de Lévitique. Et c'est donc Lévitique 26. Comme vous le constatez, c'est l'avant-dernier chapitre du Lévitique. Donc ça arrive après toutes les lois, hein. Enfin toutes les choses pour le culte. Voilà, c'est vraiment la fin de tout ce livre. Donc Lévitique 26. Tout le monde y est? Vous ne vous fabriquerez pas d'idole. Vous ne vous dresserez ni statue, ni stèle, et vous ne mettrez pas dans votre pays de pierres sculptées avec des figures pour vous prosterner devant elles. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez les jours de repos que je vous ai prescrits, et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Si vous suivez mes ordonnances, si vous obéissez à mes commandements, et si vous les appliquez, je vous donnerai vos pluies en leur saison, la terre livrera ses produits, et les vergers donneront leurs fruits. Vous serez encore en train de battre le blé quand viendra le temps de la vendange, et celle-ci durera jusqu'au semail. Vous mangerez du pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je ferai régner la paix dans le pays. Quand vous vous coucherez, rien ne viendra troubler votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les animaux nuisibles et l'épée ne traversera pas votre territoire. Vous poursuivrez vos ennemis et ils succomberont sous votre glaive. Cinq d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en mettront 10 000 en fuite. Et vos ennemis tomberont sous les coups de votre épée. Je prendrai soin de vous. Je vous rendrai féconds et très nombreux. Et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous pourrez vivre longtemps de la récolte ancienne bien conservée, et vous devrez sortir l'ancienne pour engranger la nouvelle. Je ferai ma demeure au milieu de vous, et jamais je ne vous rejetterai. Je vivrai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai fait sortir d'Égypte, et vous ai libéré de l'esclavage. J'ai brisé les barres de votre joug et je vous ai fait marcher la tête haute. Mais si vous ne m'écoutez pas et si vous n'appliquez pas tous ces commandements, si vous méprisez mes ordonnances et si vous rejetez mes lois pour ne plus appliquer tous mes commandements et pour violer mon alliance, voici comment j'agirai envers vous. J'interviendrai pour vous plonger dans l'épouvante et vous envoyer le dépérissement et la fièvre qui terniront votre regard et épuiseront votre vie. Vous répandrez en vain vos semences, car vos ennemis s'empareront de vos récoltes. Je me retournerai contre vous. Vous serez battus par vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous. Vous fuirez même sans que personne ne vous poursuive. Si malgré cela, vous ne m'écoutez pas encore, je vous affligerai pour vos péchés une correction 7 fois plus grande. Je briserai la force dont vous vous enorgueillissez. Je rendrai le ciel au-dessus de vous dur comme du fer et votre terre comme du bronze. Vous épuiserez vos forces en vains efforts. Vos terres ne produiront plus rien et les vergers ne porteront plus de fruits. Si vous continuez à me résister en refusant de m'écouter, je vous infligerai 7 fois des coups pour vous punir de vos péchés. Je lâcherai contre vous les bêtes sauvages qui vous raviront vos enfants, déchireront vos bêtes et vous réduiront à un petit nombre en sorte que vos chemins deviendront déserts. Et si, malgré ces châtiments, vous ne vous laissez pas corriger par moi, si vous vous obstinez à me résister, moi aussi je m'opposerai à vous et je vous frapperai 7 fois plus à cause de vos péchés. Je déclencherai des guerres contre vous pour vous punir d'avoir rompu mon alliance. Si vous vous réfugiez dans vos villes fortifiées, je déchaînerai la peste au milieu de vous et vous serez livrés à la merci de l'ennemi. Je vous couperai les vivres de sorte que 10 femmes pourront cuire tout leur pain disponible dans un seul four, et lorsqu'elles le distribueront par ration pesée, il n'apaisera pas votre faim. Si malgré cela vous ne m'écoutez pas, si vous continuez à me résister, je vous résisterai avec fureur et je vous corrigerai encore 7 fois plus à cause de vos péchés. Vous mangerez vos propres enfants. Je dévasterai vos lieux de culte sur les hauteurs. J'abattrai vos stèles vouées au dieu du soleil et j'entasserai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles et je vous rejetterai. Je réduirai vos villes en ruines. Je ravagerai vos sanctuaires et j'en ferai des lieux déserts. Je ne me laisserai pas apaisé par le parfum de vos sacrifices et de vos offrandes. Je dévasterai moi-même le pays, de sorte que vos ennemis, venus l'occuper, en seront stupéfaits. Quant à vous, je vous disperserai parmi les nations païennes, et je vous poursuivrai avec l'épée. Votre pays sera dévasté, et vos villes deviendront des monceaux de ruines. Alors, la terre jouira d'années de repos, durant tout votre temps, quand elle sera... qu'elle sera désolée et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Enfin, elle chômera et jouira de son repos durant toute cette période où elle demeurera dévastée. Elle se reposera pour les années de repos dont vous l'aurez frustré le temps que vous l'avez habité. Quant à ceux d'entre vous qui survivront, je plongerai leur cœur dans l'angoisse, en exil, chez leurs ennemis. Au seul bruit d'une feuille qui tombe, ils fuiront comme on fuit devant l'épée de l'ennemi, et ils tomberont sans que personne ne les poursuive. Ils trébucheront l'un contre l'autre, comme lorsqu'on fuit devant l'épée, sans que personne ne les poursuive, et ils seront incapables de résister à leurs ennemis. Vous périrez chez des nations étrangères, et le pays de vos ennemis vous dévorera. Ceux d'entre vous qui survivront dépériront dans le pays de vos ennemis à cause de leurs péchés et de ceux de leurs ancêtres. Verset 40, alors ils reconnaîtront leur faute et celle de leurs ancêtres, leur rébellion contre moi et la résistance qu'ils m'auront opposée. C'est à cause de cette résistance que je m'opposerai à eux et que je les enverrai dans le pays de leurs ennemis. Si alors leur cœur incirconcis s'humilie et qu'ils reconnaissent que leur châtiment est juste, j'agirai en fonction de mon alliance avec Jacob, de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham. Et j'interviendrai en faveur du pays. Car le pays sera abandonné par eux et jouira du repos après sa dévastation pendant leur absence. Ils reconnaîtront la justice de leur châtiment parce qu'ils auront méprisé mes commandements et rejeté mes lois. Et pourtant, même alors, lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pas et je ne les prendrai pas en aversion au point de les exterminer et de rompre mon alliance avec eux. Car je suis l'Éternel, leur Dieu. J'agirai en leur faveur, conformément à l'alliance conclue avec leurs ancêtres, que j'ai fait sortir d'Égypte, aux yeux des nations, pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Et je termine ici. Passage long, mais passage explicite. Et c'est pour ça que je commence par lui, parce qu'il commence à nous raconter ce qu'est l'alliance avec Dieu. Ce que c'est la loi et qu'est-ce qu'on risque surtout quand on ne respecte pas ce que Dieu demande. On va commencer par le commencement quand on est un bon jébusien et qu'on est devant un texte. L'observation. Tu peux y aller. Oh, c'est merveilleux. Observation. Vous avez sûrement remarqué, si vous avez une Bible qui a des petits titres, que ce passage est composé de 3 parties. D'une part, les bénédictions. D'autre part, les malédictions. Et ensuite, moi j'ai « L'Éternel maintiendra son alliance » au verset 40. Donc on va commencer par les bénédictions. Olé. Les bénédictions. Alors, versets 4 et 5. Dieu promet à son peuple, s'il lui obéit, s'il observe ses commandements. Tant de voir la prochaine diapo, s'il n'y a pas les trucs d'après. Non. Bon, après c'est une malédiction, tant pis. Versets 4 et 5, Dieu leur promet une nature généreuse. Si le peuple qui va entrer en terre promise, n'oublions pas que le peuple n'est pas encore en terre promise, si le peuple respecte l'alliance avec Dieu, s'il obéit à ses commandements, la nature de la terre promise, le pays ruisselant de lait et de miel, la nature sera généreuse. Les pluies viendront en leur saison. À peine on aura fini une moisson qu'il faudra sortir la récolte de l'année d'avant. Parce qu'il en reste encore, ils n'arrivent pas à tout manger, tellement la nature est généreuse. Vraiment, c'est un pays d'abondance que Dieu promet à son peuple s'il lui obéit. Ce sont les versets 4 et 5. Versets 6 à 8. Dieu promet à son peuple s'il lui obéit la paix à l'intérieur de ses terres. La paix. Donc dormir tranquille, sans craindre qu'il y ait un peuple qui vienne envahir, qui vienne détruire, qui vienne piller, qui vienne violer. C'est un privilège. Et non seulement la paix, mais la domination sur les ennemis. Dieu leur dit clairement qu'il y aura des ennemis, hein. Mais par contre, il leur dit, vous avez vu, une personne en fera fuir 5, et 100 personnes feront fuir 10 000 ennemis. Donc ça va, ça veut dire que on est toujours dans la même veine que de la mer qui est ouverte en deux et qui submerge l'armée de Pharaon. Quand Dieu est là au milieu de son peuple, Israël est plus fort. Quoi qu'il arrive, même avec un petit nombre, Israël est plus fort, parce que Dieu est au milieu de son peuple. Troisième bénédiction, versets 9 à 10. La prospérité en général. Ce qui pourrait être résumé par être fécond. Être fécond. Vous aurez beaucoup d'enfants. Les bêtes vont aussi se multiplier. Il y a aussi l'abondance de la récolte qui est répétée dans les versets 9 et 10. Donc vraiment l'abondance générale, la prospérité la plus totale. Donc vraiment, Dieu promet à son peuple vraiment le bonheur le plus absolu s'il respecte son alliance. Et la raison est au verset 11 et 12, la raison de cette bénédiction. Je serai au milieu de vous. Je serai au milieu de vous. Si Dieu est au milieu de son peuple, tout se passe bien. Ça, c'est la plus petite partie de ce chapitre 26. La seconde partie du chapitre 26 est beaucoup moins reluisante, ce sont les malédictions. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a une phrase qui revient tout le temps. J'essaie d'appuyer dessus quand j'ai lu. Voilà, je sais. Si vous me résistez, si vous ne voulez pas m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus, selon vos péchés. Et je me demande en fait si... Alors, premier avertissement, 7 fois. Deuxième avertissement, 7 fois, 7 fois. Troisième avertissement, 7 fois, 7 fois, 7 fois. Enfin, après, c'est en puissance, hein. Donc 7 puissance 3, 7 puissance 4, 7 puissance... Ouais, bon. Ça devient beaucoup, hein. Et vous avez remarqué qu'il y a une sorte de gradation dans les peines. Dans les peines. Et on voit aussi qu'il y a aussi quelque chose qui se répond entre les bénédictions et les malédictions. Verset 13, dans les bénédictions. « J'ai brisé les barres de votre joug, donc en Égypte, ils étaient esclaves, et je vous ai fait marcher la tête haute. » Verset 19, « Je briserai l'orgueil de votre force. » Il a brisé leur joug en Égypte, il les a libérés de l'esclavage. Apparemment, ils sont Dieu prévoit qu'ils vont s'enorgueillir quand ils seront en terre promise. Donc il dit là, par contre, je ne vais pas briser votre joug, je vais vous briser vous. Je vais briser votre orgueil par ma sentence. En tout cas, au niveau des malédictions, versets 14 à 22, donc c'est la première peine, si le peuple désobéit à Dieu, s'il rompt l'alliance, les ennemis triomphent. C'est la première chose des versets 14 à 22. La nature devient hostile, et ce qui était fécond, c'est-à-dire les enfants et les bêtes, succombe à cause des bêtes sauvages. Donc il y a des bêtes sauvages qui viennent manger un peu tout le monde, comme ça, il prend bon d'ajouter que du coup les rues seront désertes, les chemins seront désertes tellement il y aura de bêtes sauvages qui vont manger un peu tout le monde. Donc vous voyez que c'est l'inverse de la bénédiction. Jusqu'ici tout va bien. Mais, enfin tout va bien, tout est à peu près normal, il y a une certaine symétrie entre la bénédiction et la malédiction. Versets 23 à 29, c'est encore pire. On est dans un état de siège, donc en fait il y a des ennemis qui sont déjà rentrés. Israël s'est retranché dans ses villes fortifiées, croit être en sécurité. Mais du coup, il arrive ce qui arrive à toute ville fortifiée, à tout état de siège. Il y a des maladies, donc c'est-à-dire la peste. Il y a la famine, parce qu'il y a plus, bien sûr, il n'y a plus à manger vu que c'est un siège. Et ça finit carrément avec l'anthropophagie, c'est-à-dire les mamans mangent leurs enfants. Donc ça, c'est l'autre section, versets 30 à 32. Mais ça finit carrément avec cet extrême-là. Dans tout état de siège, ça se finit comme ça. En fait, on finit par manger des gens. Parce qu'on a tellement faim, il n'y a tellement plus rien à manger, Et puis on sacrifie les bébés en premier. Voilà. Après, versets 30 à 32, c'est la dévastation générale. Les villes et les hauts lieux, tout est dévasté, tout est détruit, tout est désolation. Les hauts lieux, on parle de hauts lieux idolâtres. Hein. On parle de, d'ailleurs, dans la traduction Summer, on parle bien du culte du soleil. Voilà. Alors que les traductions secondes sont un peu plus évasives là-dessus. Versets 33 à 39, dernière chose, la déportation. Vous allez être viré du pays que je ne vous ai pas encore donné, en l'occurrence. C'est intéressant, hein. N'oubliez pas, ils ne sont pas encore dans le pays premier. Et vous allez séjourner parmi vos ennemis. Vos ennemis vont vous déporter. Et pour ceux qui resteront, qui ne seront pas déportés, ce sera la terreur. On a commencé la bénédiction où, en fait, une personne, enfin, sans Israélite, poursuivent 10 000 personnes, 10 000 ennemis. Là, on finit dans les malédictions où, en gros, le bruit d'une feuille qui tombe par terre vous fait fuir. C'est l'exact inverse. On a commencé avec la toute-puissance et on finit avec une bande de gens pusillanimes, qui manquent totalement d'audace, qui sont complètement terrifiés par ce qui leur est arrivé, à qui il vient d'arriver un cataclysme. Pusillanime, c'est le mot qu'il y a dans la seconde, en fait. Et en gros, comme ça vous apprenez le vocabulaire, vous avez vu. Et en gros, la cause de tout cela est marquée aussi dans ce passage. Dans le verset 30, on nous parle donc d'idolâtrie avec les hauts lieux. Hein. Donc apparemment, le crime d'Israël, Israël rompt l'alliance et désobéit à Dieu parce qu'en fait, elle se tourne vers des idoles. Et la deuxième chose, versets 34 et 35, Israël ne respectera pas le sabbat. Ne respectera pas le sabbat, donc travaillera le jour du sabbat. Et, on va en reparler plus tard, hein, mais le sabbat, ça symbolise l'alliance, justement. Donc ne pas respecter le sabbat, c'est fouler aux pieds l'alliance faite avec le Dieu très haut. Et du coup, il n'aime pas ça. C'est fort en symbole. Troisième partie, le Seigneur est fidèle, va demeurer fidèle. À partir du moment où son peuple s'humilie, au verset 41, Dieu se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il se souvient de la terre qu'il leur a promise. Il n'exterminera pas son peuple, comme son peuple l'aurait mérité. Et donc nous avons affaire à un Dieu qui fait grâce, quand même, et qui ne va pas au bout de sa logique. Alors après l'observation, c'est l'interprétation. Olé. Je sais pas. Non, c'est bon, c'est très bien. Une des premières choses qu'on peut dire au niveau de l'interprétation, c'est que, en voyant ce texte, c'est que Dieu ne dit pas aux Israélites d'obéir à la loi pour être sauvés. Dieu ne donne pas la loi aux Israélites en Égypte et pour leur dire « Si vous respectez ma loi, je vous sors d'Égypte. » Non, il les sort d'Égypte, il les sauve. Et après, il leur demande d'obéir à sa loi. Et déjà, c'est une grande leçon. On n'obéit pas pour être sauvé, mais on obéit parce qu'on est sauvé. C'est une grande leçon pour les Israélites, mais aussi pour nous, en l'occurrence. On obéit parce qu'on est sauvé. Dieu a sauvé les Israélites sans trop leur demander leur avis. Il les a sauvés. Il a choisi Israël sans trop demander son avis. Il a choisi Abraham sans lui demander son avis. Il sauve les gens qui n'ont rien demandé, qui se rebellent contre lui, et après, il leur demande d'obéir. La deuxième chose qu'on peut dire en interprétation, c'est la notion d'alliance. L'alliance, c'est ce qui lie deux parties contractantes. C'est un contrat, quoi, hein, une alliance. Le mot alliance vient du mot berit en hébreu. Le mot berit, je vous l'appellerai tout à l'heure. C'est B-E-R-I-T-H, en fait c'est facile. Et ça signifie la co-appartenance. Donc en gros, il y a deux parties qui se mettent d'accord sur ce qui va se passer après, parce qu'en fait elles vont s'allier toutes les deux, d'où le mot alliance. Et d'où le mot qui revient très souvent dans la loi de Moïse, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Ça, c'est le résultat de l'alliance. Le peuple hébreu, par l'alliance, devient la propriété exclusive de l'Éternel, qui lui s'engage à les bénir. Par contre, on pourrait croire que l'alliance, c'est quelque chose de symétrique, hein, avec deux parties qui réfléchissent avant de signer le traité et qui se mettent d'accord et tout ça. Mais ce n'est pas comme ça avec l'alliance avec l'Éternel. Comme j'ai dit, l'alliance est dissymétrique. Elle est commandée par Dieu et elle n'est pas négociée. Enfin, elle est négociée par lui seul, en l'occurrence. Et c'est pour ça que les traducteurs grecs de l'Ancien Testament, les traducteurs de la Bible qu'on appelle la Septante, la Bible en grec, on traduit le mot « alliance » par un mot grec qui montre en fait que, enfin, qui montre qu'il y a une dissymétrie entre les deux parties. C'est pour ça que maintenant on appelle les deux alliances dans la Bible, on les appelle testaments. Testament. Un testament, c'est justement un contrat dissymétrique où il y a une personne qui décide pour tout le monde. Un testament. Justement, un testament, la personne dit voilà ce qui va arriver, voilà ce qui va arriver. Si un tel fait ça, je lui donne ça. Si un tel fait ça, je lui donne pas ça. En gros, la personne qui fait son testament, elle répartit ses biens. Et les bénéficiaires du testament n'ont rien à dire. Ils reçoivent, souvent avec le sourire d'ailleurs en l'occurrence. Mais ils reçoivent. Donc c'est pour ça que les traducteurs de la Septante n'ont pas traduit avec un mot qui dit sunseke, que c'est un contrat symétrique entre deux parties. Ils ont traduit ça par diaseke, qui est un contrat qui est dissymétrique entre les deux parties. C'est pour ça qu'on appelle ça testament. Donc ça convient très bien le mot testament, et donc maintenant vous pourrez dire à tout le monde pourquoi est-ce qu'en fait on appelle ça l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et pourquoi en fait le mot testament, qui est totalement incompréhensible par nous aujourd'hui, va en fait dire une alliance dissymétrique. La troisième chose qu'on peut dire au niveau de l'interprétation, c'est que nous sommes dans les malédictions et les bénédictions, nous sommes dans le modèle d'alliance du Proche-Orient oriental. Du Proche-Orient ancien, pardon. Du Proche-Orient oriental, c'est un peu beaucoup. Donc POA, ça veut dire Proche-Orient ancien. C'est quelque chose qui n'est pas exclusif, ce chapitre 26. C'est ce qui se faisait partout dans le Proche-Orient ancien à cette époque. Il y avait un vassal et il y avait un suzerain. Le suzerain est au-dessus du vassal. Et il y avait des traités qui étaient signés entre un vassal et le suzerain. Le vassal, bien sûr, recevait la protection du suzerain. Et le suzerain recevait un tribut ou recevait une aide de la part de son vassal. Donc toujours contrat asymétrique. Et donc c'est ce qui se passait. À la fin donc il y avait souvent un prologue. Il y avait voici ce que tout le monde doit faire. Et à la fin, toujours, il y avait bénédiction et malédiction pour ceux qui obéissent ou pour ceux qui désobéissent à cette alliance. Le chapitre 26 n'est rien d'autre que ce qui se faisait à l'époque, donc au 14e, 13e siècle avant notre ère, chez les autres peuples. C'est ce qu'on a retrouvé grâce à l'archéologie. Et ce qui nous fait dire, entre parenthèses, que Lévitique date bien du 13e, 14e siècle avant notre ère, et pas plus tard, parce que plus tard les traités vont évoluer et les traités ne vont plus avoir cette forme-là du tout. Donc cette fois-ci, on est sûr qu'on est à peu près à cette période-là, Moïse et tout ça, parce que certaines personnes disent que le Lévitique a été écrit beaucoup plus tard, et à mon avis, la présence de ces bénédictions et ces malédictions en cet état-là prouve qu'on est bien à cette époque-là. Quatrième chose, Dieu veut faire alliance par amour. Son intention, c'est que nous lui appartenions. C'est d'avoir une vraie relation avec son peuple. Et le summum de ça, bien sûr, vous y pensez tous, c'est l'alliance éternelle dont nous jouissons grâce à notre union à Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus dit, c'est le sang de l'alliance en mon sang, quand il institue la scène, le sang de l'alliance. Voilà, maintenant nous jouissons d'une nouvelle alliance en Jésus-Christ. C'est grâce à Jésus-Christ que nous appartenons à Dieu. C'est grâce à Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Donc Dieu veut faire alliance par amour pour sauver des personnes. Alors, quel est le but de la loi? C'est la cinquième partie. Je pense que le but de la loi, c'est un rôle d'amplificateur du péché. Et je dis je pense, mais en fait, c'est pas tellement moi qui le dis, c'est plutôt l'apôtre Paul. C'est un peu une préparation à la venue de Jésus. La loi montre aux Israélites à quel point ils ne peuvent pas s'y conformer. C'est quand même un truc dingue que dans une loi, où en fait les personnes ne sont même pas dans le pays, Dieu leur dit en fait, vous allez échouer. Vous allez échouer, vous n'allez pas y arriver. Voilà ce qui va vous arriver. Et ce qui est dingue en fait, c'est ce qui leur est arrivé. 8e siècle, 6e siècle, donc 8e siècle pour le royaume d'Israël, le royaume du Nord, 6e siècle pour le royaume du Sud, ils ont été déportés. Les premiers, enfin, en Assyrie, les autres à Babylone. Vraiment, ça s'est passé comme ça. Hein. Donc plusieurs siècles après cette alliance, Israël a effectivement échoué. Israël n'a pas pu tenir. Et justement, le but de la loi, c'est vraiment de nous montrer à nous et de montrer à l'époque à Israël que c'était pas possible de tenir seul et de plaire à Dieu en obéissant à la loi. Et c'est pour ça qu'ils avaient besoin de la foi et de s'en remettre à la grâce de Dieu pour être sauvés. Paul va même nous dire dans son chapitre 3 de l'Épître aux Galates, qu'on va pas trop avoir le temps de lire maintenant, que la loi était un pédagogue pour nous conduire à Christ. Un pédagogue, à l'époque de Paul, c'était un esclave qui avait, enfin, moi je l'imagine avec un bâton, pour emmener les personnes à l'école, pour emmener les enfants à l'école et parfaire leur éducation, quoi. Enfin, les obliger à obéir, on va dire. Voilà. Et les emmener à l'école sans qu'ils aillent faire l'école buissonnière ou qu'ils aillent faire des chemins de traverse. Pour Paul, Paul nous dit, la loi de Moïse a été un pédagogue pour nous conduire à Christ. Elle a été un pédagogue pour nous montrer à quel point on a besoin de Jésus pour être sauvé. Parce que la loi, ça ne suffit pas. Parce que la loi nous condamne, parce que la loi nous fait mériter l'enfer. Nous méritons d'être pulvérisés par Dieu. Parce que nous ne lui obéissons pas. Alors du coup, au niveau de l'application, on peut bien sûr faire une analogie avec les Israélites. Dieu nous a sauvés de l'esclavage et il a fait alliance avec nous par Jésus, par le moyen de la foi. Sauf que nous savons maintenant que nous ne pouvons pas nous reposer sur nos œuvres pour mériter le salut, pour être justifiés par Dieu. Il a fallu qu'il établisse une nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et ça nous permet d'être sauvés par le moyen de la foi. Et donc, en gros, ce n'est pas parce que vous êtes des enfants sages que vous êtes sauvés. Ce n'est pas parce que vous faites partie d'une famille chrétienne que vous êtes sauvés. Ce n'est pas parce que vous n'avez jamais tué personne ou parce qu'en fait vous faites plein de bonnes œuvres et que vous n'avez pas l'impression du tout de péché que vous êtes sauvés. C'est parce que vous avez mis votre foi en Jésus que vous êtes sauvés. Vous ne pouvez pas vous enorgueillir. Ça ne vient pas de vous. Dieu est venu vous chercher. Vous ne lui avez rien demandé. Vous ne méritez strictement rien. Ça fait du bien pour notre orgueil. Vous étiez asservi. Et Dieu vous a libéré par sa main puissante, par son esprit. C'est la première chose qu'il faut se rappeler, dont il faut se rappeler au niveau de l'application. La deuxième chose, c'est que être dans l'alliance, l'ancienne ou la nouvelle, ça se voit forcément. J'ai dit, on est sauvé pour obéir. Et donc du coup, si on est sauvé, si on est entré dans cette alliance, ça se voit par nos œuvres. Ça veut dire qu'on obéit à Dieu. Les bénédictions et les malédictions existent toujours dans la nouvelle alliance. Les bénédictions, c'est d'être une nouvelle création, d'être en communion avec Dieu. C'est que Dieu habite en nous. Vous vous rappelez la bénédiction du chapitre 26 ? Quand Dieu habite au milieu des Israélites, tout est fécond. Quand Dieu habite en nous, son esprit nous rend fécond, nous fait des dons, et du coup on peut le servir. Quand Jésus est au milieu de son peuple, est à la tête de son église d'un seul coup jouit de vertus à peu près surnaturelles. En fait, d'un seul coup, on s'aime les uns les autres, on se pardonne, on essaie de travailler à l'avancement du royaume. Dans l'idéal. Voilà, et Dieu nous promet des nouveaux cieux et une nouvelle terre si nous restons dans son alliance. Par contre, il y a aussi des malédictions. Jésus parle de personnes qui pourraient faire tomber des frères et sœurs, pourraient être une occasion de chute. Jésus nous parle de personnes qui ont l'air d'être dans l'alliance, mais au niveau de leurs actes, ça ne se voit pas du tout. Et du coup, Jésus dit, mais en fait, ces personnes-là, elles ne sont pas dans l'alliance, parce que leurs actes témoignent du fait qu'elles n'ont rien compris à l'alliance. Et du coup, on les jette au dehors, dans les différentes paraboles de Jésus. Et c'est là qu'il y a des pleurs et des grincements de dents, dans les ténèbres du dehors, dans la géhenne, dans le feu éternel. Dans la Nouvelle Alliance, il y a aussi des malédictions. Mais bon, à part ces petites analogies, on pourrait dire que bon, voilà, on est dans la Nouvelle Alliance, c'est cool. L'ancienne sert plus strictement à rien. Hein. Donc voilà, en fait, en gros, on peut brûler l'Ancien Testament. Hein. L'Ancien Testament, bon, c'est cool, il y a des histoires sympas, il y a un mec dans un poisson, enfin tout ça. Donc voilà, à la rigueur, on pourrait juste garder les passages qui sont cités par les apôtres et par Jésus, et le reste, on peut tout virer. Il y a un gars qui s'appelle Marcion. Qui a dit ça. Ça a donné un courant qu'on appelle le marcionisme, et justement qui dit un peu que l'Ancien Testament, c'est bon, on peut s'en passer. J'espère que vous ne pensez pas ça, mais comme vous êtes des gens bien, vous ne pensez pas ça. Et comme vous êtes là, vous ne pensez pas ça. Peut-être que vous pensez ça, mais vous voulez que je vous convainque du contraire. Donc je vais vous convaincre du contraire. Mais je veux juste vous dire que ce serait une grave erreur de penser ça. Dieu, dans l'Ancien Testament, s'appelle l'Éternel. Et du fait qu'il s'appelle l'Éternel, il ne change pas. Donc s'il a dit quelque chose à un moment donné, il le dit pour tout le temps. Il ne se renie jamais. L'Éternel ne change pas. Du coup, c'est une alliance qui a évolué, mais c'est une alliance. Dieu n'a pas changé. Et donc, l'Ancien Testament est toujours utile. D'ailleurs, Jésus, ou Paul, ou les autres apôtres, n'ont jamais cessé de prendre des images de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, pour expliquer comment Jésus arrange tout dans cette alliance. Et du coup, ça me donne l'occasion, pour finir, en conclusion, de dire un peu comment on va procéder tous les jours et de voir les plans. Vous avez normalement dans vos... voilà, ouais, ça c'est bon. Ouais, alors donc voilà, en dernier... Là, si, tu peux y aller. Ah non, attends. Non, c'est bon, c'est plus la peine. Ouais. Donc en gros, la loi est utile pour comprendre les concepts et les expressions utilisées par Jésus et les apôtres. Est utile pour savoir comment Jésus satisfait pleinement aux exigences de la loi. La loi est aussi utile pour nous rappeler que la Bible est vraiment la parole parfaitement cohérente de Dieu. Il y a un livre là-dessus hein, dans la collection questions suivantes. Et quatrièmement, que notre culture biblique est vraiment, vraiment très très faible. Et que si notre culture biblique était moins faible, on trouverait que le livre de Lévitique montre d'une manière majestueuse à quel point Jésus est le Seigneur des Seigneurs et à quel point il répond pleinement aux attentes de Dieu. Le fait qu'on en doute, le fait que voilà, on se dit tiens, je comprends pas trop et tout ça, ça veut juste dire qu'on manque cruellement de culture au niveau de la loi de Moïse. Parce que vous allez voir pendant toute cette semaine que le Nouveau Testament est truffé, mais vraiment, vraiment truffé de références à la loi de Moïse. Donc la manière dont on va procéder cette semaine, pour tous les passages qu'on va étudier, c'est que premièrement, on va se mettre dans la peau des Hébreux. On ne va pas aller tout de suite à Jésus, on ne va pas aller tout de suite à Jésus, mais on va déjà vraiment se mettre dans la peau des Hébreux. Vous êtes sortis d'Égypte, enfin, il y a eu des super miracles, tout ça, et vous voulez vraiment plaire à Dieu, vous voulez être bien avec lui, hein. Et du coup, vous allez essayer de comprendre les passages comme si vous étiez des Hébreux. Voilà. Mettez-vous dans la peau des Hébreux. Ensuite, nous allons voir les évolutions et les différentes applications de la loi au cours des siècles après le don de la loi. Après, on va voir l'accomplissement en Jésus. Et après, bien sûr, on va voir les applications pour nous. Donc, comme d'habitude, OIA, quoi. Hein. Voilà. Vous avez dans vos manuels le plan du Lévitique, hein. Donc, je sais pas si vous... Peut-être que vous ne l'aviez pas dans votre Bible, alors je voulais imprimer. Je vous l'ai fait imprimer. C'est le plan qu'il y a dans la Nouvelle Bible Second, la Bible d'études. Donc, vous voyez qu'en fait, le plan du Lévitique, c'est en quatre parties. Donc, je vous laisse le regarder. Ça vous donne quand même un plan d'ensemble qui est assez intéressant. Vous pouvez me dire la page ? La page 9, voilà, la page 9. Donc, vous pouvez l'étudier, tout ça, quand vous ne serez pas à bosser votre étude biblique, tout ça, vous pouvez l'étudier. Et vraiment regarder un peu comment les choses sont cohérentes. Vous voyez que c'est bien rangé, hein, le Lévitique. Et enfin, le plan de la semaine. le plan de la semaine qui est la page. Bah, en fait, c'est les pages qui suivent. Les plages qui suivent, en fait. Hein. Donc, nous allons étudier demain Lévitique 1. C'est étonnant, non ? Mais en fait, à chaque fois, on va étudier un passage, mais on va faire référence à plein d'autres passages. Hein, parce que, bien sûr, étant donné que j'ai pas trois semaines, nous n'allons pas étudier chaque chapitre, même si chaque chapitre, en fait, mériterait d'être étudié à part. Il va falloir qu'on fasse un prix de groupe. Et donc, vous pouvez prier pour moi. Et on va étudier le chapitre 1, mais on va faire en fait le chapitre 1 à 7, parce qu'on va parler de sacrifice. Après-demain, nous allons parler de la pureté et de la sainteté. Une notion très présente dans le Lévitique. Après-demain, nous allons parler du fait d'être saint, d'être mis à un peuple mis à part pour Dieu. Donc, c'est le Lévitique 19. Ensuite, jour 5, c'est-à-dire dans 4 jours, nous allons parler des fêtes, des différentes fêtes religieuses juives, et ensuite, enfin, des Hébreux, des Israélites. Et ensuite, dernier jour, Lévitique 25, nous allons parler du jubilé. J'ai essayé de faire en sorte de varier un peu les plaisirs. Parce qu'on pourrait parler de sacrifices pendant une semaine, par exemple, si on voulait. Mais en fait, j'ai choisi de faire les sacrifices que pendant une journée, pour qu'on puisse vraiment faire un tour d'ensemble, et qu'à la fin, vous puissiez vous dire « c'est vachement bien le Lévitique ». Donc, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que cette introduction vous met un peu de l'ordre dans l'alliance, dans la loi et à quoi ça sert. Et pour conclure, et avant d'aller boire un coup, je vous invite à prier. Seigneur notre Père, nous voulons te remercier parce que alors que nous étions tes ennemis, alors que nous ne t'avions rien demandé, alors que même que tu étais en colère contre nous, parce que nous sommes pécheurs, tu nous as sauvés, tu es venu nous chercher. Il y a 2000 ans, tu as envoyé ton fils mourir à notre place. Et un jour, dans notre vie, tu t'es manifesté à nous. Par ton esprit, tu nous as convaincus que nous étions pécheurs, que nous méritions ta colère et que nous devions te demander pardon. Tu as fait naître la foi en nous. Par ton esprit, tu nous donnes la force de continuer de marcher avec toi. Tu nous donnes la force de t'obéir. Par ton esprit, tu fais le ménage en nous. Seigneur, pour tout cela, nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier. Seigneur, vraiment, c'est un privilège immense d'appartenir à ton peuple, de faire partie de ton alliance. Merci, merci notre Père. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus mourir à notre place. Merci parce que nous sommes devenus tes enfants d'adoption. Merci parce que Jésus est devenu notre frère. Seigneur, c'est merveilleux et nous ne comprenons même pas toutes les implications de tout cela. Mais nous savons que nous avons de la chance et nous voulons vraiment toujours te dire merci. Merci de l'espérance que nous avons en toi. Merci parce que nous vivrons bientôt d'une communion totale avec toi. Un jour, nous te verrons face à face. Un jour, nous serons dans des nouveaux cieux et de nouvelles terres où tu habiteras pleinement, où il n'y aura plus de pleurs, où il n'y aura que du bonheur, où il y aura un repas de noces, où nous verrons aussi Jésus face à face et où ce sera vraiment jubilatoire. Merci Seigneur pour cette espérance. Merci pour tout ce que tu fais en nous jour après jour. Continue de bénir ce camp. Bénis cette journée. Et voilà, aide-nous à chaque instant à te rendre gloire et à te rendre une infime partie de tout ce que tu nous as donné. À ton nom seul soit la gloire, en Jésus notre Seigneur. Amen.